Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'ai fait la fraise de l'économie régénératrice. Ben, on commence de quoi ? On part des ressources. Le problème, c'est qu'on ponctionne la Terre indéfiniment. Et si on prend la même analogie et qu'on ponctionne dans ses ressources vitales, dans son vivant à soi, on ponctionne trop, on obtient du burn-out, on obtient du bore-out. On a toutes sortes de résultats pervers où les gens sont utilisés uniquement pour ce qui intéresse la société commerciale, l'entreprise, et toutes leurs autres dimensions, c'est bah, occupez-vous de ça quand vous avez du temps.
Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Au cours de cette période de 6 mois quand tu as quitté cette entreprise, tu as fini par atterrir à Tokyo. Et à Tokyo, tu vas entamer une véritable introspection, si je puis dire. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ton arrivée à Tokyo et pourquoi à ce moment-là, t'en as découvert beaucoup sur toi ?
Alors, l'histoire de Tokyo, c'est parce que c'est un ami qui m'a invité à Tokyo. Un ami qui était venu à Shanghai, je l'avais invité dans ma... Moi, je vivais dans une chambre d'hôtel, en fait, c'était mon appartement. Et c'était un copain que j'avais connu dans les études. Et on a eu des échanges assez profonds. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'on s'est croisés au Tibet, au plein milieu du Tibet. On s'est rencontrés, alors que c'était quand même... C'est grand, le Tibet. Et là, on s'est trouvé au bon moment, au bon endroit, une espèce de rencontre un peu connectée avec quelque chose, une autre dimension. Parfois, dans la vie, il y a des synchronicités assez troublantes. Et en fait, cette rencontre a été tellement marquante qu'on s'est dit, il faut qu'on se revoie. Lui, il avait une copine, il n'y avait pas d'ambiguïté concernant, mais c'était plutôt une rencontre profonde. Et moi, le process d'introspection, j'ai toujours été très dans l'introspection puisque j'ai été confronté extrêmement jeune à un questionnement sur moi-même. Moi, je sens un truc comme ça, mais en fait, on m'explique que je suis comme ça et j'essayais de voir comment ça pouvait coïncider. Donc, plus je me suis éloigné de chez moi, Tunis, Paris, Paris, Atlanta, Atlanta, Shanghai, Shanghai, Tokyo, comme je dis souvent, je suis né à Tokyo parce que effectivement, au terme de toutes sortes de mois, de réflexion, de questionnement sur, au fond, qu'est-ce que le capitalisme ? Parce que les Chinois avec qui je travaillais, ils me renvoyaient quand même, disant, oui, la banque, machin, vous savez, nous, les Japonais, ils nous prêtent à taux zéro. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Et en fait, j'ai été challengé dans mon côté occidental. Comme quand j'étais en Tunisie, j'ai été challengé en tant que Français par les Tunisiens qui m'entouraient. Donc, ce questionnement, je l'ai eu à plusieurs niveaux dans ma vie, et à plusieurs moments dans ma vie. Donc, il y a un moment quand on pose des questions, il faut trouver des réponses. Je me suis dit, qu'est-ce que je réponds à ça ? Et quand c'est à toi-même que tu te poses la question, là, on ne peut pas financer trop longtemps, surtout quand il y a une souffrance. Et donc, je me suis dit, bon, la finance, ce n'est pas pour moi. Et donc, pendant tout ce temps au Japon, pourquoi c'était intéressant ? Parce qu'à nouveau, il y avait de l'altérité. Parce que quand on se trouve face à une langue comme le japonais, c'est comme si je pouvais être... J'étais à la fois entouré d'humains et en même temps, j'étais face à moi. Et c'est quand même un pays avec des coutumes très particulières. Et quand je me baladais dans Tokyo, j'avais l'impression que j'étais dans un film de science-fiction. Et j'étais totalement transparent. Et ça, c'était très agréable. C'est-à-dire, autant à Shanghai, j'avais l'air très visible et un peu surveillé même. On m'a dit à un moment donné que j'étais surveillé par la police parce que je fréquentais une Chinoise en particulier. Et j'étais choqué. Je me suis dit, ah, waouh, je suis surveillé par la police. Et quand j'étais à Tokyo, tout le monde s'en foutait ce que je pouvais faire ou pas faire. Et les Japonais, très polis, mais ne calculaient pas. Et en fait, c'était apaisant pour moi de ne plus être calculé. Parce que justement, ça me laissait le champ pour dire qui j'ai envie d'être vraiment. Est-ce que j'ai envie d'être moi-même à 100% ou est-ce que j'ai envie d'être à 80 ou à 70 ou à donner le change au nom de je ne sais pas quoi. Donc, j'ai laissé parler mon cœur. Et je me suis dit, il n'y a qu'une seule manière d'être dans la vie, c'est d'être dans ta vérité à toi, peu importe le coût. Et effectivement, du coup, sans faire de mauvais jeu de mots, je suis rentré, après avoir quitté la Chine, juste à mon retour du Tibet, je passais 3 mois à Tokyo et puis 3 mois à voyager, notamment en Italie. Et puis, je me suis rentré à Paris en disant, maintenant, il va falloir trouver un job. C'est bien gentil tout ça, mais là, les petites économies, c'est fini. Donc, OK. Et c'est là où j'ai recommencé à rentrer dans un circuit plus école de commerce. Je suis allé à un forum, le SCP, et j'ai été dragué, littéralement, au sens professionnel du terme, bien sûr, par une personne qui bossait pour une grosse boîte américaine. Et j'ai hésité entre plusieurs boîtes internationales. Et je voulais une boîte de finance. Je me dis, je vais quand même retravailler dans la finance. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la finance? Tu fais plus en marketing, fais du marketing, marketing, marketing. Donc j'ai dit oui. Et ça a été mon parcours, première étape, deuxième étape de mon parcours professionnel. Là, je suis rentré dans une grosse boîte américaine. Et assez rapidement, au bout de 9 mois, j'ai dit non, c'est pas ça. Et j'allais prendre des cours à l'école Boulle, des cours d'art, 6 heures par semaine, pour me dire, dans cette introspection en Chine, j'avais commencé à faire de la peinture chinoise, à faire jouer du violon, essayer de trouver comment faire des jeux aux échecs, au qigong, à la culture chinoise en général. Et donc, je me suis dit, il faut que j'explore cette partie artistique de moi. Et très vite, j'ai fait ma deuxième déviation en partant dans une boîte qui faisait de la location-vente d'art contemporain.
Donc, tu l'as dit, en tout cas pour l'art, que tu as fini par travailler dans ce milieu. Et justement, c'est un milieu, comme tu l'avais expliqué au début de l'interview, qui te passionnait depuis petit. Alors, le fait de travailler en contact avec une de tes passions de jeunesse, qu'est-ce que ça t'a procuré, justement ?
Alors, en fait, une chose importante à dire par rapport à mon vécu intime en Tunisie, c'est que j'ai souvent dit, j'en ai marre de conjuguer les temps du passé. Donc, c'est bien gentil de s'intéresser au passé, mais moi, j'avais envie d'être en prise sur l'avenir. Donc, quitter la Tunisie, pour moi, c'était quitter tout un ensemble de choses assez lourdes dont je n'étais pas responsable. Je n'étais pas responsable de tout ce qui s'était passé en Tunisie. Je n'étais pas responsable de ce qui était arrivé à ma famille. En revanche, ça pesait. Donc, je devais le prendre en compte. Mais petit à petit, comme j'ai trouvé toujours du bonheur à créer, je me voyais bien devenir joaillier, couturier, je faisais des petits vêtements pour les poupées de ma sœur. C'était un truc qui m'amusait et ce rapport à l'art, je l'ai toujours eu de manière intime. Et toute ma vie, j'étais en contact avec des artistes sur un plan intime, intellectuellement. Donc j'ai une affinité avec l'art parce que je sens l'importance de cela. Je pense que tout le monde a un rapport à l'art. Il y a des gens qui vont s'habiller d'une certaine manière. Alors, on dirait, c'est pas de l'art. Il suffit de voir le diable s'habiller en Prada, c'est amusant. Parce que quand elle arrive avec son pull bleu et qu'elle a l'air très fière d'elle parce qu'elle achetait un truc pas cher et que Miranda Priestley la retoque en lui disant, tu crois que ma petite cocotte, tu crois que t'as acheté ce pull et tu te sens très indépendante et que tu peux cracher sur la mode. Et bien, moi, je vais t'expliquer d'où vient la couleur de ce pull. Et elle lui fait la généalogie du pull, et l'autre, elle tire une longue tête parce que elle pensait avoir un peu, genre, tout ça c'est de la merde, moi je suis une intellectuelle, ben non. Donc moi, quand je me suis rapproché du monde artistique, c'était aller à la rencontre de moi-même, de quoi étais-je porteur et comment je pouvais comprendre la création. Et effectivement, que ce soit la musique, la poésie, la peinture, le cinéma, le théâtre, la danse, peu importe, toutes ces expressions tendent à dire qu'il y a quelque chose de plus. Comme disait Filiou, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est quoi l'art? Et en fait, je me suis toujours plaisanté avec l'art et le dollar. Donc on est dans un monde où le dollar est très important, mais où l'art aussi est important. Et tout ça, ça joue la danse. Donc quand je me suis rapproché de l'art, pour en faire potentiellement un métier, on dit des gens, il est dans l'art. Bon, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il travaille dans un domaine technique qui le met en contact avec le marché de l'art contemporain. Et quand je dis que je n'aimais pas conduire les temps du passé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est où la création d'aujourd'hui? J'ai commencé à m'intéresser à Kandinsky, à Picasso, au cubisme, à toutes ces choses-là, parce que c'était ma première approche. Donc quand je suis allé, j'ai quitté cette grosse boîte américaine et que j'ai décidé de rejoindre cette société qui faisait de la location-vente d'art contemporain, il y avait ce côté original marketing. Je me disais, ah ouais, comme c'est intéressant. Il y a un potentiel. Super, mais comment on va libérer ce potentiel? Ah ben, on va travailler comme ci, on va travailler comme ça. Donc oui, j'étais super content. Et j'ai quitté ce système américain extraordinairement bien huilé, que j'ai quitté d'ailleurs un peu trop tôt, parce que j'ai péché un peu par orgueil. Mais le fait de travailler avec des artistes, d'aller choisir des œuvres dans les ateliers, puis ensuite de vendre de l'art, j'ai adoré commencer à expliquer aux gens. Chez moi, il y a une nature pédagogique dans ma nature multiple. La nature éducative est très élevée chez moi. J'adore expliquer, faire progresser. Donc quand on a la posture du formateur, je suis très à mon aise. J'adore être dans la posture du formateur. À ce moment-là, je me suis dit que j'étais capable de vendre des objets d'art. Des tableaux, à l'époque c'était surtout tableaux, sculptures, puis c'est devenu des installations, tableaux, dessins. Il n'y avait pas de photos, à l'époque il y avait très très peu de photos, c'est venu après les photos. Maintenant je m'occupe de photographes, mais à l'époque je ne m'en occupais pas. Et donc c'est ça que ça m'a apporté.
Donc après cette expérience, tu as eu plusieurs autres expériences en rapport avec l'art qu'on va pas toutes citer parce que je pense que ça serait long et ça perdrait peut-être les gens. Mais en tout cas, on peut arriver au point final qu'à un moment, tu t'es rendu compte que l'art, c'était pas assez rémunérateur. Et donc, tu es retourné dans le monde de la publicité pure et dure. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage de l'un à l'autre et ce que tu faisais dans le monde de la publicité?
Oui, alors par rapport au monde de l'art, effectivement, qui est pas très rémunérateur, c'est rémunérateur, mais c'est compliqué d'y arriver. C'est compliqué de gagner sa vie, aussi bien quand on est artiste que quand on est galeriste ou agent, parce qu'il y a une offre énorme et il y a une demande qui est très très faible. Donc même avec le développement de l'art contemporain, etc., il n'en reste pas moins que c'est compliqué. Donc il y a eu cette période de 3 ans où j'ai exploré la possibilité de systèmes marketing intéressants et novateurs pour vendre de l'art, pour acculturer, pour donner envie aux gens d'acheter de l'art. Donc c'est 3 ans d'expérimentation par rapport à un système commerçant bien précis, qui était très très bien foutu et qui m'a permis de faire travailler des artistes, dont un artiste qui s'appelle Chen Zhen, donc un très très grand artiste que j'ai eu la chance immense de rencontrer à Shanghai, qui m'a donné à lire un texte. Et grâce à Chen, tout d'un coup, j'ai été projeté, sans me rendre compte, sur une trajectoire de vie absolument fantastique, parce que du moment où je l'ai connu jusqu'à maintenant, je n'ai jamais quitté. Il nous a quittés prématurément en 2000, mais moi, je n'ai jamais quitté, ses œuvres ne m'ont jamais quitté. Et quand je dis aux gens, j'ai aidé à ce que Chen s'installe en France, oui, c'est génial. Effectivement, Chen, ça a été le cadeau du ciel. Mais quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit, il m'a lu un texte d'une page, on me demande si c'était bien écrit en français. Et j'ai dit, waouh! Soit ce type est complètement fou, soit c'est un génie. Et puis après, j'ai opté pour la deuxième. Et donc, j'ai acheté ma première peinture, c'est à lui. Et quand j'ai découvert le bonheur d'acheter de l'art, je me suis dit, je peux peut-être aider d'autres à découvrir ça parce que c'est génial, c'est en train de se faire. Donc, oui, l'art, c'est difficile à vendre et oui, c'est compliqué d'en vivre. Et puis, j'ai une merveilleuse opportunité qui était de partir à Prague pour rentrer en agence de pub dans un grand groupe. Ce que j'ai accepté après avoir bien réfléchi, parce que c'était quand même un grand saut à nouveau. Et j'ai quitté cette entreprise un peu artisanale pour plonger dans le grand bain de la pub internationale. La personne qui m'a recruté m'a fait confiance et j'en serai éternellement reconnaissant, quelqu'un qui est très entreprenant et qui s'est dit « Mais si, tu vas voir, tu as toujours vendu de la créa, je suis sûr que tu vas être parfait là-dedans. » Donc il a fallu que je prouve à mon entourage que oui, j'étais parfait, ce qui était dur, parce que j'avais à peu près 35 ans, et ce n'est pas évident de rentrer dans la pub à 35 ans, parce que c'est souvent là que les gens en sortent. Donc moi, je suis rentré, et ben, ça m'a amené jusqu'en 2010 à faire tout un travail, d'abord 2 ans à Prague, et ensuite, j'ai travaillé à coordination internationale pour un très grand groupe de pub internationale, où là, j'ai vu les grands rouages de très grands comptes, et fait de la, ce qui s'appelle la coordination internationale. Alors, ça faisait un petit écho à ce que j'avais fait en Chine, sauf que là, c'était avec des gigantesques budgets. Et là, on était dans du concret, du technique, pour valider des campagnes de pub, enfin, préparer des campagnes de pub avec des compétitions internationales, choisir les agences, manager les agences, s'occuper de zones géographiques pour la stratégie de développement communication du produit A, B ou C. Voilà.
Et au bout d'un moment, au fur et à mesure de ces expériences dans ce grand groupe de pubs, c'était un milieu qui a fini par plus te convenir. Je te laisserai m'expliquer pourquoi et me raconter pourquoi est-ce que cette période, elle a été compliquée. Tu m'avais parlé de problèmes avec ta boss, d'un décès dans ta famille, enfin plein de choses qui se sont mélangées qui ont fait que ça a été le début de la fin dans la publicité.
Oui, ça a été. Effectivement, il y a eu toute une déconstruction qui s'est opérée au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'ai été dans une phase de construction où je me suis, je dirais, musclé dans une forme de compétence, mais je me rendais bien compte que quand je me posais la question « suis-je interchangeable ?», malheureusement, j'avais de plus en plus la question « oui ». Et plus on ne vieillit pas bien dans la pub, sauf si on devient chef. Et comme je n'étais pas à des fonctions de management, je me suis dit, un jour, ils vont me virer et je vais tomber de haut. Parce que c'était glamour, parce que je voyageais en business class, parce que j'étais très, très apprécié, tout se passait très bien, je brassais toutes sortes de pubs avec des super beaux budgets. Enfin, tout était. C'était un peu. C'était pas bec bédé 99 francs, mais. Parce que ça, c'était bien fini. Mais c'était quand même très, très exaltant, parfois, il faut le dire. Mais en même temps, bon, la pub, pour moi, c'est quand même le bras armé d'un capitalisme triomphant. Et au bout d'un moment, je me suis senti en déphasage entre ce que la pub véhicule comme idéologie et ce que moi, j'avais en tête. Un peu comme en Chine, je me suis dit, mais est-ce que le modèle capitaliste, finalement, il est si bien que ça? Est-ce que les Chinois n'ont pas un peu raison? De certaines manières. Donc ces questionnements, moi je suis toujours prêt à mettre sur la table, dire bon, ne partons pas avec des idées préconçues, regardons les faits et voyons qu'est-ce qui se passe. Et donc en fait, par rapport à ma propre santé physique et mentale, la pression que j'ai subie de plus en plus forte, j'ai travaillé pour un certain nombre de personnes, et puis c'était plus la même chose, il y a eu des très belles années, puis à un moment ça commençait à se dégrader. Moi, j'avais mes propres difficultés. J'ai été en arrêt maladie par-ci, en arrêt maladie par-là. Et ça a commencé à se dégrader. Et ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est que peut-être que de l'extérieur, mes patrons trouvaient que je faisais plus l'affaire. Ou peut-être que moi, je trouvais que eux ne faisaient plus l'affaire. Et la dernière expérience que j'ai eue a été de travailler avec quelqu'un qui était un dingue de boulot et qui avait le chic pour dégoûter les gens du travail. Quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et d'assez toxique aussi, j'ai pas peur de le dire, en tout cas pour moi, après pour les autres, je ne sais pas, mais dont l'ambition dévorante faisait qu'il sacrifiait tout au travail et que moi, je n'étais pas sur terre pour tout sacrifier au travail et que je ne trouvais plus du tout mon compte dans tout ça. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle et j'ai dit, c'est moi qui vais divorcer avec ce groupe avant que ce groupe se sépare de moi.
L'année 2013 que tu m'avais appelé l'année de transition pour toi, pour encore une autre déviation. Là, tu refais un retour dans l'art et dans un premier temps, donc tu retournes dans l'art avant de te lancer dans le coaching. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a remotivé à ce moment-là à aller à retourner dans ce milieu et qu'est-ce que tu y as fait cette fois?
Alors, tu me demandes qu'est-ce qui a fait que je suis retournée dans l'art et quelle a été cette période de transition en quittant ce monde de la pub, des grandes boîtes, comment ça s'est passé. En fait, l'année clé, c'est l'année Maya, c'est 2012. Je m'amuse à penser ça. Et j'ai eu mon année Maya où, quelque part, un monde est fini. Le 31 décembre 2012, j'ai quitté mon dernier job salarié. Et en fait, l'année 2013 a été une année de transition où, au moment où j'ai vu que tout ce que je faisais d'un point de vue classique ne marchait pas, il fallait que je revienne une fois de plus et encore une fois de plus aux fondamentaux, c'est qui suis-je, qu'est-ce que j'ai au fond de moi, de quoi suis-je porteur et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, comment je peux porter ça. Le problème d'un artiste, c'est qu'il peut avoir son crayon, son papier, ses pinceaux, sa peinture, mais ce n'est pas parce qu'on a un truc à dire au monde que le monde s'y intéresse. Moi, j'ai vu un psychiatre à un moment donné, un homme extraordinaire, qui a regardé mes dessins d'enfant. Il a analysé les choses. Et il a vu très, très clair plein de choses. Et en fait, simplement avec un dessin, il m'a raconté ma vie. Un peu comme un astrologue, regarde les cartes, dit « Ah oui, vous êtes comme ci, comme ci, comme ça. » Et en fait, il m'a dit « On n'est pas obligé d'être dans le « où », Bernard. On peut aussi être dans le « et ». On peut être ça et ça. J'ai le droit d'être très, très à l'aise avec des femmes et être très très à l'aise avec des hommes. Après ma sexualité, où est-ce qu'elle se situe, peu importe de savoir si je suis hétéro, bi, mono, curieux, machin, etc. Mais on peut être et. Je peux aimer l'art et aimer l'argent, pourquoi pas pour aimer l'argent, mais juste parce que pour ce que ça procure. On peut avoir des activités artistiques et avoir une activité professionnelle extrêmement connectée au monde économique d'aujourd'hui. Donc, ce retour à l'art, ça a été un retour à nouveau, chroniquement, je suis retourné à, ben, je me retrouve à poil, les mains qui cachent le sexe, et puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Donc, où est-ce que quelles ressources je vais trouver en moi pour pouvoir m'en sortir? Et donc, j'ai remis tout ça sur le tapis, et je me suis dit, bon, on repart, on recommence. Donc, j'ai travaillé avec des galeries, j'ai essayé de trouver des possibilités, des collaborations, etc. Et finalement, le déclic, ça a été avec l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des artistes dont je me suis rendu compte que je pouvais les accompagner, parce que j'avais développé cette... Comme j'ai toujours été des deux côtés, côté du commerce et côté de l'art, ben, j'étais un merveilleux intermédiaire. Je suis quelqu'un qui suis un intermédiaire. Donc, pendant ces années de transition, ben, je suis retourné à nouveau du côté artistique, mais je suis surtout retourné là où c'était ma zone d'excellence. Et comme moi, j'avais toujours été excellent en langue, j'ai oublié tout ce côté, il faut être bon élève, terminal C, machin, etc. Je me suis dit, non, allez, très honnêtement, Bernard, où est-ce que tu as toujours été bon et qui agaçait tes camarades? Ouais, toi, tu es bon en langue. Sauf que quand on est bon en langue, qu'est-ce qu'on va devenir? On va faire une licence en langue, on va être linguiste, on va être interprète, on va être prof. Ça, c'était un destin que ma mère ne voulait pas pour moi, même si peut-être que j'aurais été un excellent professeur. Mais à partir du moment où elle est décédée, début 2014, 6 mois plus tard, sans même y réfléchir, je me suis mis à aider, à coacher des gens sur leur anglais, c'est-à-dire je faisais du coaching d'anglais. Et comme ça, entre les artistes que j'accompagnais pour les aider à trouver économiquement des manières de subsister, de trouver des plans marketing, toutes sortes d'idées, etc., ben j'ai commencé à naturellement me mettre dans une posture d'accompagnement. Et entre l'anglais et l'art, je me suis dit, ben on parle tout le temps l'art du management, l'art de dialoguer avec ses collègues, l'art de faire de l'argent. Il y a toujours cette idée d'élégance. Quand je parle d'art, il y a une sorte de chose naturelle. Les artistes me font confiance parce qu'ils sentent que je les comprends. Donc, un client, il a besoin d'être entendu, c'est de la moindre des choses, mais aussi compris. Et puis qu'on distingue nettement les choses. Pour moi, s'il y avait un mot important pour coach, c'est cadre. C'est-à-dire que toute la richesse de l'échange avec le coach, mais ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec un consultant, c'est que particulièrement, il y a ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a quelque chose qui se passe. Et une fois que le cadre est posé, ça se passe à l'intérieur du cadre. Il y a un début temporel, il y a une fin. Et une fois que la fin est arrivée, on passe à autre chose. Et la personne travaille dans son coin. Donc voilà un peu comment l'art est revenu dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de développer art du coaching, d'être le plus souple possible avec mes clients. Et je travaille à faire des propositions de toutes sortes, trouver des produits qui soient vraiment toujours là pour aider les gens à trouver pourquoi ils font les choses, qui fondamentalement ils sont et de quoi sont-ils porteurs. Parce que lorsqu'on répond à ça, quelle que soit la configuration, c'est toujours une question importante. Mais si les gens ne sont pas à ce niveau de questionnement, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, les gens avec qui je travaille et avec qui ça résonne bien, c'est parce qu'ils sont arrivés à ce moment de leur vie. Tous ces carrefours que moi j'ai rencontrés, ben, j'ai des clients qui sont aussi à ces carrefours. Sauf que moi, je suis devenu un spécialiste du carrefour.
Donc, comme tu le disais, petit à petit, après être retourné dans le monde de l'art, tu t'es dirigé petit à petit vers l'accompagnement, donc avec l'anglais, puis ensuite tu as développé ton accompagnement, et justement c'est de ça dont on va parler. Donc tu as fini par être coach certifié et donc te lancer à ton compte. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu t'es spécialisé, parce que ce n'est plus que l'anglais, tu ne fais pas que ça, et pas que les artistes par exemple. Donc dans quoi tu t'es spécialisé, et puis... quelles sont les personnes que tu accompagnes, leurs problématiques, généralement ?
Alors, comment est-ce que, par rapport à cette évolution de mon parcours, comment je me spécialise aujourd'hui ? En fait, je travaille un peu comme aime à le dire un artiste, c'est un peu une idée de permaculture, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a. Il se trouve que moi, cette matière, c'est ma sensibilité artistique, mon jeu sur les images. Quand je travaille avec quelqu'un, bah, je vais utiliser des images, je vais aider la personne. On peut parler de pratiques narratives, on peut parler de récits. Les gens vont aller se représenter leurs problématiques de manière différente. Et tout ce qui est différent, c'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire que quand les gens sont mal dans un système, en fait, ils finissent par s'obséder avec ça. Donc, moi, je suis là pour les aider à se déplier. C'est-à-dire que ce que je trouve fantastique, c'est d'aider les gens à exprimer le plus possible leur potentiel, de révéler ce trésor dont je parlais dans mon enfance, ce masque de Toutankhamon planqué dans un tombeau au fin fond du désert. Eh bien, moi, je dis que les gens, ils ont tous ce trésor en nous. En eux. Les gens ont ce trésor en eux. Et effectivement, là où je me suis spécialisé, c'est que je suis allé chercher des outils qui traitent du câblage. J'adore la PNL, parce que la PNL, on parle de programme. On est programmé d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on peut déroger au programme, mais on a une certaine manière d'être câblé. Et quand on regarde les intelligences et natures multiples de Stephen Rudolph, c'est une approche que j'ai trouvée géniale parce que on a d'un côté des intelligences, donc on a des câblages, et puis il y a des natures qui sont des motivations profondes. Et quand on croise les deux, on arrive à une cartographie très fine de qui est la personne. Donc, quand le boulot te renvoie une image de toi qui est très, très aliénante ou très limitante, eh bien, moi, je dis aux gens, attendez, on va procéder autrement. Je vais vous tendre un miroir beaucoup bien différent où vous allez pouvoir vous examiner devant, derrière, avec différents éclairages, et tout d'un coup, vous voir et vous raconter votre propre récit à vous-même différemment. Donc moi, ma spécialité, c'est d'être toujours plus près de qu'est-ce que la personne a de spécifique, a d'unique. Chaque fois, toujours aller voir des outils qui permettent rapidement d'éclairer, de cartographier un peu la personne, lui donner des éléments. Il y a la ProcessCom, il y a le DISC, moi je travaille avec le MBTI, peu importe les utilisations, moi, et je travaille beaucoup avec cette idée de travailler sur la singularité. Qu'est-ce qu'on a de singulier en nous ? Il y a toute une approche très intéressante là-dessus que je ne développerai pas, mais c'est comment on trouve son pourquoi. Pourquoi je fais les choses ? Comment je les fais ? Qu'est-ce que ça donne ? Quel est mon impact ? Qu'est-ce qui va faire que mon programme va se dérouler normalement ou ne va pas se dérouler normalement, eh bien, j'aime bien regarder les modélisations. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir comprendre comment on fonctionne, c'est important de se modéliser. Et en PNL, on passe son temps à modéliser. C'est-à-dire qu'on essaye de créer un process comme un ordinateur où on dit, tiens, je vais mettre en équation. Donc, je prends mes pensées, puis-je dire, tiens, dans tel contexte, ça réagit comme ça. Dans tel contexte, je fais ça. Et dans tel contexte, boum, ça bug, boum, ça bug. Est-ce que la ligne de code, mon code, est-ce qu'il est mal écrit? Si j'écris en Python, en Cobra, en je ne sais pas trop quoi, en code informatique, aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ça, c'est de la technicité. Ils écrivent du code. Mais ils peuvent devenir hackers, ou ils peuvent devenir créateurs de super programmes de rencontres, ou des programmes pour savoir où on va trouver se loger.com, ou bien comment acheter au milliardième de seconde, faire des transactions boursières. Peu importe, c'est du code, c'est de l'écrit. Ça permet de faire de l'intelligence artificielle. Donc moi, je pense tout le temps que ce qui est important pour l'humanité, c'est que chacun trouve sa place. Et que pour l'instant, on est totalement hors du compte. Mais cette idée de savoir où on va chercher ces ressources et comment on se régénère, c'est ça que je propose aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait des fresques, j'ai fait la fresque de l'économie régénératrice. Ben, on commence de quoi ? On part des ressources. Le problème, c'est qu'on ponctionne la Terre indéfiniment. Et si on prend la même analogie et qu'on ponctionne dans ses ressources vitales, dans son vivant à soi, on ponctionne trop, on obtient du burn-out, on obtient du bore-out. On a toutes sortes de résultats pervers où les gens sont utilisés uniquement pour ce qui intéresse la société commerciale, l'entreprise, et toutes leurs autres dimensions, c'est ben, « occupez-vous de ça quand vous avez du temps ». Moi, je dis non, 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 c'est pas comme ça. On a des domaines de vie, on a la vie intime, on a la vie de couple, on a la vie de famille, on a la vie professionnelle, on a la vie sociale, tout ça baignant dans un environnement. Et il faut que ces cinq domaines de vie soient, on peut distinguer cela, on pourrait voir ça autrement, mais en tout cas, il faut que tout ça ait sa place. Donc, il n'y a pas pour moi de vie possible sans un équilibre. Quand on parle de nutrition, les gens qui font des régimes, ah, alors que protéinés, que ci, que ça, mais tout ça, ça ne va pas pour moi. Il faut trouver des équilibres dans le déséquilibre.
Toi qui disais justement qu'on devait trouver sa place, toi qui as eu de multiples déviations dans ta carrière, et je vais finir sur cette question, est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ta place dans l'accompagnement, que c'est quelque chose qui te convient, toi qui attends par exemple, à un moment tu te posais des questions sur le capitalisme, etc. Est-ce que là, dans ce métier-là, dans cette activité-là, tu y trouves du sens aujourd'hui ?
Absolument. Je trouve du sens. Est-ce que je trouve du sens dans ce que je fais ? Oui, j'en trouve profondément. Et cette fois, ça, c'est ma dernière déviation. Et peu importe que j'achète une galerie un jour ou que j'essaye de continuer à vendre des artistes, de toute façon, ce que j'ai compris, c'est que moi, j'étais là pour donner de l'énergie aux gens, pour qu'ils puissent comprendre comment ils fonctionnaient le mieux possible, le plus justement possible, le plus authentiquement possible, parce que quand tu es dans ton authenticité à toi, quand on est authentique, on ne craint plus la concurrence. On est soi. Ça gêne, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on est ça. Après, il faut l'assumer soi-même. De la même manière que j'ai dû assumer que j'étais homosexuel, ce qui n'était pas facile parce que je n'étais pas programmé extérieurement pour ça, mais j'étais programmé intérieurement pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à voir, au fond, c'est quoi ton programme interne ? C'est quoi ? Qu'est-ce que le cosmos ? Qu'est-ce que le destin ? Qu'est-ce qu'on appellera ça comme on veut ? A mis en toi. Il y en a qui disent Dieu, il y en a qui disent la physique quantique, peu importe, ou les sciences nat, peu importe l'approche. On est des entités conscientes qui, par rapport à l'intelligence artificielle, ont ceci d'intéressant qu'il y a de la créativité. Donc moi, je dis, soyez vous-même le plus possible, et il y a beaucoup de problèmes qui semblent insolubles, qui ne vont pas être résolus d'un coup. Mais on peut commencer à poser une cartographie, voir ce qu'il est vital de préserver, là où on peut faire des compromis, et comment on trouve petit à petit. Et moi, le premier, hein, je sais ce que c'est. Être coach aujourd'hui, c'est très dur. Il faut de la récurrence, parce que si je suis un très bon coach, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aider quelqu'un, okay, je vais accompagner quelqu'un. Puis si je suis très bon, bah, la personne va être accompagnée vite et bien. Et puis après, bah, c'est fini. Ensuite, il faut que je retrouve quelqu'un. Donc en fait, le métier de coach, c'est épuisant, parce qu'il faut tout le temps trouver des nouveaux clients. Je suis tout le temps resté connecté à cette idée que j'accompagne les artistes, et les artistes sont mes antennes. Parce que pourquoi l'art, c'est intéressant ? Parce que c'est souvent les artistes qui sont les plus visionnaires. Ce sont les artistes qui ont la stratégie la plus extraordinaire. Parce qu'un artiste, sa stratégie, tu la vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à être stratèges. Et être stratège, c'est se dire, qu'est-ce qui, dans mon ADN entrepreneurial, fait que je vais plutôt être bon ici ou là? Et comment je joue la transition? Et peut-être qu'il va falloir que je transite toute ma vie. Mais à un moment, j'y arriverai. Et puis au pire, qu'est-ce que c'est? Ben, la destination, le bonheur, c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc dans tout ce cours de lutte et de on creuse, on essaye, on se plante, on recommence, etc. C'est ça la vie. C'est ça la vie.
Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.